Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Et salut à tous.
Et oui, Mordren et Ben nous ont lâchés cette semaine, n'est-ce pas? Donc, ATH et moi, on va vous faire ce qu'on appelle un podcast YOLO, n'est-ce pas? C'est-à-dire un podcast totalement improvisé, où on va discuter d'un sujet en particulier. Nous avons décidé de vous parler de l'émotion, n'est-ce pas, dans le jeu vidéo. Alors, comment nous est venue cette idée de sujet de podcast? Pas plus tard qu'hier, nous discutions d'idées pour ce podcast, et on était, a priori, parti sur un sujet sur le survival horror. Pourquoi le survival horror? Parce que c'est un genre, si vous voulez, que on a un peu délaissé ces dernières années, et pourquoi? Parce qu'il ne nous fait plus peur, en fait, tout simplement. Parce que c'est devenu des jeux d'action, principalement. Alors certes, il y a eu des jeux, notamment le dernier Alien ou Amnesia, etc., ces dernières années. Mais quand même, on a un peu ce sentiment que le genre survival horror s'est plus orienté vers l'action. Et que du coup, on a un peu perdu cette émotion qu'est la peur, en fait. Mais comme c'est un genre qu'on a un peu délaissé, on se sentait pas forcément légitime de parler en détail sur ce sujet. De toute manière, on s'est dit que ça serait plus intéressant de parler de l'émotion en général dans le jeu vidéo. Du coup, d'aborder sous différents angles, que ce soit le rire, la peur, le sentiment d'accomplissement, l'empathie envers les personnages, etc. Et donc, ATH, je te propose justement qu'on commence par le genre qui nous a amené à ce podcast, n'est-ce pas ? Le survival horror et donc la peur. Alors la peur, je sais pas pour toi TH, mais dans le jeu vidéo en tout cas, je distinguerais deux grands genres entre guillemets, c'est-à-dire les jeux qui finalement ne te font pas tant peur que ça, en tout cas quand t'as plus de 12 ans, mais qui te mettent plus dans une situation de stress. Ouais. Et où de temps en temps t'as un jumpscare, enfin ce qu'on appelle un jumpscare, c'est-à-dire t'as un monstre qui sort et là tu sursautes, mais où finalement quand on va dire t'as un peu de bouteille, c'est pas quelque chose qui te fait peur, quoi, en fait. Je pense notamment au Resident Evil, et notamment le premier. Je les ai refaits récemment. Enfin, récemment, il y a un an. En fait, je me suis rendu compte que c'est des jeux qui me faisaient plus du tout peur. Alors que quand j'avais 12 ans, par exemple, je peux dire que quand j'y jouais dans le noir, j'avais la pétoche, quoi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des jeux qui te mettaient plus dans une situation de stress vis-à-vis de la maniabilité. Et vis-à-vis du fait que t'as des monstres qui te courent, ouais, ce genre de choses, quoi.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, par rapport aux deux peurs. Donc il y a la peur train fantôme, en fait. Mm. Typiquement, c'est les premiers Resident Evil, avec 1, 2, 3, et je mettrai aussi Code Veronica X dedans.
Oui.
Après, à partir du 4, c'est parti dans une ambiance très orientée action.
Voilà.
Et il y a aussi la peur, là, je dirais plus basée sur la psychologie.
Ouais.
Le meilleur jeu qui représente pour moi cet exemple, c'est Silent Hill 2.
Tout le monde pense à Silent Hill, de toute façon, dans ce cas-là, je veux dire. C'est le premier jeu, si tu veux, où, mais vraiment, j'ai eu de la trouille, quoi. La première fois que tu entends la sirène et que tu bascules dans l'autre monde,
ouais,
tu te pisses dessus, quoi.
Ouais.
C'est vraiment le premier jeu qui, en permanence, à chaque fois que je basculais dans l'autre monde, me...
Non, pas ça.
Non. Et tout le long, le truillomètre, il était au maximum, quoi.
Non, mais en fait, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que la peur s'installe même une fois que tu as éteint la console, en fait. En fait, c'est tellement... Quand tu joues à Silent Hill, on dirait vraiment que t'es claustrophobe, quoi. Un peu comme dans les Resident Evil quand t'es enfermé dans le manoir, sauf que là, c'est encore plus fort parce que tu vois les murs qui suintent d'une substance dégoulinante, tu sais pas ce que c'est. Même les ennemis, tu vois, par exemple, dans Resident Evil, t'as des zombies. Mmh. Les zombies, c'est vachement populaire au cinéma. Alors que dans Silent Hill 2, tu vois des infirmières où il en manque des bras. Même, je sais que, par exemple, dans Silent Hills, tu avais une école. Mmh. Le développeur du jeu voulait te faire affronter des enfants monstres. Sauf qu'ils ont dit non, on va pas le faire parce que ça va être too much, tu vois.
Mmh.
Mais tu vois quand même que ils sont dans un trip vachement plus orienté psychologie, paranoïa du personnage que tous les autres jeux, en fait.
Et ce qui est intéressant aussi dans Silent Hills, c'est tout le travail sur le son, en fait. Le travail sur le son, c'est incroyable, quoi. Il y a je sais plus combien de bruits de pas qui ont été enregistrés pour ce jeu. La symbolique de la sirène à chaque fois que tu l'entends, qui dès qu'elles vont se déclencher, tu vois, t'as ton trouillomètre qui va faire... Il va faire le grand 8, quoi. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec ce jeu, en fait. C'est qu'il arrive à faire ce que très peu de jeux ont réussi à faire, finalement. C'est-à-dire qu'il installe une peur en permanence. Les jumpscares, c'est très facile à faire. C'est le chien dans Resident Evil. C'est le truc... hop, tu te balades, et puis là, paf, t'as un truc qui casse la fenêtre. Et puis derrière, ben, une fois que t'as passé la porte, t'es tranquille, quoi. Alors que là, non, c'est même pas les créatures qui te font peur, c'est l'environnement. Même avec la peur, le malaise, quoi. C'est dégueulasse, quoi, Silent Hill. Enfin, c'est... je veux dire...
Ouais, c'est vrai que Silent Hill, par rapport aux autres, il y a cette ambiance oppressante qui est vachement malsaine. Mais quelque chose qui est très bien en termes de mécanique dans n'importe quel survival horror pour qu'il soit réussi, c'est justement ce que tu disais, c'est le sound design. Mm. Et justement, Resident Evil, les premiers, sur PlayStation, jouaient vachement là-dessus parce que tu avais cette caméra qui était vraiment figée et qui te montrait juste un plan. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner une idée, on va dire qu'une caméra qui filme un salon. On ne voyait pas la totalité du salon. On voyait juste, par exemple, la première partie. Tu entendais des bruits de zombies qui étaient en train de manger un autre être humain. Mais sauf que tu ne le voyais pas. À ce moment-là, le travail hors champ faisait vraiment cette situation de peur. Et moi, je pense qu'un bon jeu d'horreur doit avoir cette chose qui... tu sais qu'il y a une menace, mais tu ne la vois pas forcément.
Bah, c'est ce qui fait la qualité, par exemple, des œuvres de Lovecraft. T'as quelque chose et tu sais pas ce que c'est. Et c'est finalement cet inconnu, si tu veux, qui fait que t'as le trouillomètre qui montre au maximum. Ce que je trouve aussi intéressant dans Silent Hills, par rapport au reste de la production ludique, c'est vraiment le côté psychologie des personnages, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont tous cinglés dans ce jeu, quoi. Mais... et même le personnage que tu joues, au fur et à mesure que tu progresses, notamment dans Silent Hills 2, tu te rends compte que le mec que tu joues, il est vraiment pas net, quoi, en fait. Et il a peut-être quelque chose à se reprocher, tu vois, pour qu'il ait les visions qu'il a.
Ouais, mais en fait, en dire plus, ça serait un peu spoiler ce jeu qui est Silent Hill, donc c'est pour ça qu'on va pas en dire plus. Mais je me rappelle que, tu sais, avant de faire ce podcast, on avait déjà parlé, par exemple, des jeux qui étaient vachement bien écrits. Et moi, pourquoi j'ai choisi Silent Hill 2 et pas cité directement le premier? Parce que pour moi, Silent Hill 2, c'est un des rares jeux qui est vraiment très bien écrit en termes de narration.
De mise en scène.
Voilà. Et en fait, quand tu joues à Silent Hill 2, tu te rends compte que vraiment, la représentation de tout ce que tu vois dans le jeu, c'est un rapport avec ton personnage. Mm. Silent Hill, si vous voulez, c'est une interprétation différente pour chaque personnage qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'aventure. Mm. Et ça, c'est un détail vachement important dans le scénario du jeu, quoi.
La ville, en fait, est un personnage en elle-même.
Exactement. Il y a beaucoup de jeux où, tu vois, par exemple, Resident Evil avait un scénario finalement très nanardesque, quoi. Mm. Rien qu'à l'introduction, ça vous voyez que c'était vraiment un scénario de série B.
Ouais.
Là où Silent Hill frappe fort, c'est que, comme je l'ai dit, tu vois, quand j'ai éteint la PlayStation 2 après avoir joué à Silent Hill 2, j'avais toujours cette situation de malaise, comme si, en fait, finalement, le jeu ne m'avait pas totalement quitté, tu vois.
C'est ça. Franchement, c'est un truc qui te traumatisait. Moi, je sais que j'ai fait des cauchemars avec ce jeu. parce que, tu sais, en fait, le visuel du jeu était tellement imprégné dans mon crâne, si tu veux, que j'en rêvais. Après, dans les jeux un peu plus récents, je trouve quand même qu'il y a une catégorie de jeux qui a... un peu emprunté aux deux grands ténors que sont Silent Hill et Resident Evil. Alien est le dernier représentant, à mon avis. Et ça a été un peu initié par Amnesia The Dark Descent, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un personnage qui, finalement, est très vulnérable. Un peu comme dans les Resident Evil, où... mais là, c'était plus dû, en fait, vraiment à la maniabilité du personnage. Alors que là, dans Amnesia, c'est plus le fait que c'est un personnage qui est un peu désarmé, tu vois. Donc, c'est pas un super-héros que tu joues, quoi, entre guillemets. C'est pas le mec qui se balade avec son flingue, qui tue tout le monde. Et pareil dans Alien, tu vois. La nana, elle est là, t'as l'alien qui la poursuit partout, t'es totalement désarmé face à lui, en fait. Et tout ce que tu peux faire, c'est te cacher.
Ouais, tu joues pas un membre des Stars, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et d'un autre côté, t'as toute la partie hors champ dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la peur t'est suggérée, en fait. Et c'est ce qui fait la force d'un Cthulhu, par exemple, d'H.P. Lovecraft. Et c'est clairement de ça que s'inspire Amnesia, c'est le fait que la menace, tu la vois pas. Ou alors, quand tu la vois, bah, ça y est, c'est fini. À partir du moment où tu la vois, c'est terminé. Et c'est comme ça, par exemple, que fonctionne le jeu au papier de Cthulhu. C'est généralement, quand tu la vois, la menace, c'est le moment, en fait, où tu vas faire des jets de ouf, tu vois, pour essayer de survivre, parce que il y a 90% de chances que tu crèves, quoi.
Pour parler d'une série récente, je vais citer Outlast, pour faire un rappel de ce que c'est. On joue un journaliste qui va enquêter sur un asile muni de sa caméra. Et donc le gameplay du jeu s'articule vraiment autour de ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'arme à feu, il n'a pas de lampe de poche ni rien, et donc pour avoir justement de la lumière, ce qu'il faut faire, c'est utiliser son caméscope avec, tu sais, la vision nocturne. Sauf que, vu que c'est un caméscope, t'es obligé de chercher des piles dans le niveau pour avoir une source de lumière pour avancer. Et donc c'est vraiment un jeu de cache-cache géant dans un asile rempli de tarés, quoi.
D'accord. Ça fait penser un peu, tu sais, au jeu avec un appareil photo.
Ah oui, Project Zero.
Project Zero, c'est ça. Où elles doivent photographier, tu sais, pour détecter les fantômes, etc. Ça me fait penser à ça un peu. Et moi, justement, ce que je trouve intéressant, par rapport au Resident Evil, où finalement tu joues des Rambo, mais c'est le fait que, ben voilà, tu joues quelqu'un de normal et finalement tu t'identifies à ce personnage, quoi.
Ouais, bah après, pour revenir à Resident Evil, parce que quand même, c'est un peu la licence la plus connue dans ce genre-là.
Bon, même si, je veux dire, Resident Evil est très inspiré de Alone in the Dark, hein, notamment.
Ah non, mais c'est... D'ailleurs, Shinji Mikami l'a avoué, enfin, je crois, il y a 2-3 ans, qu'il avait vraiment joué à Alone in the Dark. Alors qu'avant, il n'osait pas trop l'avouer, mais...
Non, non, c'est bizarre, mon jeu, ça ressemble à un copier-coller de Alone in the Dark sur plein de mécaniques, mais je me suis pas du tout inspiré, hein, pas du tout.
Mais c'est vrai qu'ils avaient fait aussi un jeu... Capcom avait fait un jeu sur NES à l'époque, ça s'appelait Sweet Home, qui était aussi un jeu d'horreur. On va dire que Resident Evil, c'est un peu un mélange des deux. Mais ils avaient vraiment fait un jeu d'horreur qui s'appelait Sweet Home, en fait. Et là où je voulais revenir sur le premier Resident Evil, c'est que, en fait, tu joues vraiment un tank, quoi. C'est-à-dire que le mec, il peut pas faire un demi-tour sur lui-même. C'est apparu que à partir de Resident Evil 3, tu vois. Et donc, dès que t'as un ennemi, tu te demandes est-ce que tu vas le buter ou pas, parce que là où le jeu rend le stress, c'est par rapport au nombre de munitions que t'as. Tu n'as pas 2000 munitions de AK-47 pour tirer sur tout ce qui bouge. C'est là, en fait, où Resident Evil, je pense, qui a marqué vraiment les joueurs. C'est-à-dire que tu étais constamment en situation de stress par rapport au nombre de balles. Et là où, en fait, Resident Evil a vraiment, pour moi, explosé en termes de situation de stress, c'est quand tu rencontres les Hunters.
Alors, pour moi, c'est encore pire que les Hunters, c'est le 3 avec le Nemesis.
Je parle au tout début, vraiment, de la genèse de la saga.
Ouais.
Parce que les Hunters, en fait, ils sont vachement plus rapides que toi.
C'est ça.
Et ils sont vachement résistants.
Oui.
Donc là, dès que t'en vois un là, à ce moment-là, tu commences vraiment à flipper parce que il peut te tuer. Mais c'est vrai que moi, je trouve que l'idée du Némésis dans le 3, cette idée du monstre qui te poursuit pendant tout le jeu,
bah en fait, ils auront pris les Hunters et ils ont dit on va te mettre ça tout le long du jeu, quoi.
Ouais, mais sauf que là, c'est un Hunter encore plus vénère, quoi.
Ouais, c'est ça, et qui pète des murs, quoi.
Parce qu'en fait, dans le 2, il y avait déjà eu cette situation-là avec le tyran qui apparaissait, mais c'était scripté. Mm. Alors que là, ce qui était fort dans le 3, c'est que le Némésis était aléatoire, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et tu ne savais pas vraiment quand il allait te tomber sur la gueule. Et là, quand il tombait sur la gueule, t'avais deux choix, soit fuir, soit le combattre. Et si t'essaies de le combattre au début du jeu, bah il te met une misère, quoi, parce que tellement il est puissant par rapport à toi, et toi t'as pas encore débloqué le bazooka, etc. Donc bonjour pour le tuer, quoi.
Bah pour moi le 3, en fait, c'est vraiment le summum du concept de base de la saga, quoi. C'est là où je trouve qu'ils ont vraiment poussé l'idée à fond, en mettant justement ce Némésis qui te poursuit tout le temps. Toi, t'es avec ton perso un peu pourri, qui doit faire comme il peut, tu vois, et tu galères. Et t'es tout le temps en situation de stress. Et le basculement, en fait, pour moi, c'est arrivé à partir du 4. Alors, attention, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu d'action, pour moi.
Un excellent jeu.
C'est un excellent jeu d'action. De toute façon, c'est lui qui a posé toutes les bases du genre TPS, hein. Donc, voilà.
Ouais.
Le TPS n'existerait pas sans Resident Evil 4, tout simplement. Mais, par contre, ce n'est plus un jeu d'horreur. C'est-à-dire que, dès l'instant où tu mets un perso super maniable, l'idée de base de Resident Evil s'effondre, en fait. Et du coup, ça devient un jeu d'action. Alors après, ce qui est ballot, c'est que les épisodes suivants sont devenus des mauvais jeux d'action. Mais ça, c'est un autre problème.
Ouais, enfin, pour Resident Evil 4, au début, tu vois, enfin, c'est plus devenu des jeux d'action à ambiance horrifique que des survival horror.
Ouais, c'est ça.
Dans Resident Evil 4, quand on débarque dans ce village espagnol, t'as quand même, si tu veux, cette ambiance un petit peu, tu sais, la colline à des yeux, etc.
C'est en termes de mise en scène, mais plus du tout en termes de gameplay.
Voilà. Et donc, ouais, c'est vraiment un jeu qui... où tu défonces tout ce qui bouge, et puis après, le jeu en lui-même, il est pas mauvais. Toutes les mécaniques qu'il a apportées, ça a révolutionné le genre, quoi.
Oui, c'est ça.
Le fait que la caméra à l'épaule, en termes de rythme, Resident Evil 4, c'est incroyable, quoi. Ça ne redescend jamais, en fait.
C'est ça. Tu parlais de mécaniques, pour élargir un peu le sujet, justement. Moi, ce qui me pose problème, par contre, si tu veux, c'est quand on parle d'émotion dans le jeu vidéo, généralement, on te parle de mise en scène. Quand on parle du rire, par exemple, on te parle d'humour.
Mmh.
Et finalement, on parle assez peu de mécanique qui provoque des émotions. On pense à l'émotion essentiellement comme on pense à l'émotion au cinéma.
Ouais, c'est vrai que les jeux qui font rire, il y en a très peu en fait finalement. Enfin, les jeux qui, je veux dire, qui sont drôles par eux-mêmes. Parce que toi, tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, du fait que les jeux qui te font rire, en fait, il y en a pas mal. C'est les jeux où tu joues en multilocal, parce que t'es avec des potes.
Ouais.
Et puis qu'il y a moyen de te marrer, tu vois. Par exemple, tu joues à Mario Kart avec des amis. Le jeu en lui-même n'est pas un jeu humoristique.
Mais c'est les mécaniques, si tu veux, qui font que tu te fous sur la gueule, en fait. Et tu fais des conneries, et c'est ça qui est drôle. Hein. Et c'est par le gameplay que le rire arrive. Moi, je sais, par exemple, j'ai eu une expérience incroyable sur Broforce. Je sais pas si tu vois Broforce, que c'est. Enfin, c'est,
ouais,
c'est un jeu coop
parodique des films des action movie des années 80-90.
En 2D, vu de côté, tu vois, ou pure action, où tu pètes les décors à fond. Et plus que le fun du jeu, c'est vraiment la drôlerie du truc. C'est-à-dire que tu pètes des décors, et là, tu butes ton pote parce que t'as pété le décor qui et je me rappelle une fois avec un pote, on est rentré mais super tard le soir, tu vois, chez lui, et on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on n'avait pas envie de dormir en fait. On était morts, on était crevés, tu vois, mais on n'avait pas envie de dormir. Donc du coup, on a regardé sa bibliothèque Steam et on s'est dit tiens, Broforce, ça a l'air sympa ça. On n'a jamais testé, c'est l'occasion. Et on a fini le jeu en une nuit, tu vois. Mais par contre, le truc c'est qu'on était crevés à mort. Et tu sais, quand t'es crevé, c'est un peu comme quand t'as bu de l'alcool, quoi. C'est-à-dire que t'es dans un état second et tu ris à n'importe quoi. Et je me rappelle, mais c'est vraiment, je pense, l'un de mes plus grands moments de fou rire dans le jeu vidéo. C'est genre, tu vois, 6 heures non-stop de fou rire. On a passé une nuit blanche à se marrer, mais en permanence, à cause du gameplay du jeu, quoi. C'est-à-dire que on faisait des conneries, ça pétait de partout, comme on était crevés, tu vois, on faisait de la merde et on mourait comme des cons. Et c'est de là que venait la drôlerie, en fait. Ça fait très longtemps qu'on en fait dans le jeu vidéo. Sauf que, oui, c'est par des mécaniques et c'est pas par de l'écriture, quoi, si tu veux.
Bah, moi, après, en termes d'humour, des jeux qui m'ont fait rire par leur mécanique, c'est un jeu fait par Rockstar. Vous avez tout de suite pensé à GTA, mais ce n'est pas GTA, même si c'est vrai que GTA me fait rire par les dialogues de ces personnages totalement absurdes. Voilà, ils ont un travail d'écriture qui est assez fort en fait là-dessus. Mais je voudrais revenir sur un jeu qui est peut-être un peu le moins connu des licences Rockstar. C'est, enfin, il y a Manhunt, mais c'est pas celui-là dont je veux parler. C'est Canem Edit.
Ça s'appelle Bully, je crois, aussi.
Ouais, Bully Scholarship.
Ouais. Alors, en gros, c'est le jeu où tu joues un gamin... Enfin, c'est GTA, voilà. Chez les gamins, c'est ça?
En fait, c'est comme si tu veux, Nico Bellic avait eu un petit neveu.
D'accord.
Et en fait, ce mec-là, c'est un peu le mec que vous détestiez tous à l'école. Et donc, en fait, le jeu, si tu veux, comme c'est un GTA un peu plus mignon, le gamin doit faire plein de conneries pour avancer dans l'histoire, etc.
D'accord.
Donc... Si tu veux, le jeu, il me faisait marrer parce que quand j'y jouais, je voyais un surveillant, bah la première chose que je faisais, c'est que j'allais le cogner, tu vois. Et en fait, lui, si tu veux, il t'attrapait comme ça, il te mettait au sol et puis après il t'envoyait dans le bureau du proviseur. Mais le jeu, en fait, c'était tellement n'importe quoi que des fois, par exemple, tu voyais un mec, parce que c'était un jeu très caricatural, avec donc des gens qui sont, par exemple, tu vois, t'avais les sportifs, les nerds, les blousons noirs, enfin, ce genre de choses-là. Par exemple, il y avait un sportif qui faisait, je sais pas, 2 mètres de haut, tu vois, et qui, au bout d'un moment, je passe comme ça et je vois, il se bat avec un gosse. Et si tu veux, comme l'IA des personnages était mal réglée, bah, je voyais le petit qui mettait une mandale à un mec, un grand mec de 2 mètres et tout, et puis j'ai complètement explosé de rire, quoi. Parce que tellement c'était pas logique dans le... C'était vraiment un défaut du jeu.
Ce que j'allais dire, c'est pas tant des mécaniques qu'un souci de game design, quoi, en fait.
Voilà, mais ça, moi, si tu veux, ça m'a fait rigoler. Enfin, si, en fait, c'est une mécanique, parce que dans le jeu, la mécanique, c'est-à-dire que les gens, ils s'embrouillent, ils s'insultent et tout ça.
C'est involontaire.
Ouais, mais là, c'est que la mécanique, à ce moment-là, ou du jeu, elle avait été mal réglée, tu vois. Et moi, j'ai complètement explosé de rire quand j'ai vu ce genre de choses-là. Après, c'est, voilà, tout le reste du jeu se base sur un humour de plus ou moins mauvais goût. C'est-à-dire, tu peux venir pincer les fesses des filles, ils te demandent d'aller voler, je sais pas, quelque chose. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses-là un peu débiles. Mais moi qui m'a bien fait rire, parce que dans le jeu vidéo, tu veux l'occasion de me faire marrer comme ça, il y en a pas tellement. Et Bully, je me rappellerai toujours pour ça, parce que c'était vraiment voilà, n'importe quoi. Par exemple, tu te fais courser par les pions ou bien par la police, hop, tu jettes un sac de billes et puis là en fait il tombe par terre et toi t'as le temps de t'enfuir, quoi.
Alors moi je voulais évoquer un autre type de jeu, c'est les jeux qui te font chialer, en fait. et pour moi, un jeu qui est extraordinaire de ce point de vue-là, mais bon, vous le connaissez tous, hein, puisqu'il a été overhypé, c'est Journey. C'est un jeu qui a de la magie, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que tu commences comme ça, tu te balades. Et puis, d'un seul coup, tu vois un autre perso. Tu dis, bon, voilà, ok, c'est un autre perso, très bien. Et puis là, d'un seul coup, tu te rends compte que c'est un autre joueur. Et ce que j'ai trouvé très fort dans Journey, en fait, c'est ce lien quasi viscéral avec le personnage qu'ils ont réussi à créer par une seule mécanique. Le seul moyen de communiquer avec un autre personnage, tu vois, c'est de lancer un cri. Il y a un passage où vraiment ce jeu m'a soufflé. J'ai perdu de vue l'un de mes compagnons de voyage. Et il y a mon personnage, tu vois, qui se baladait comme ça, qui a tourné en rond, qui a tourné, et qui lançait des cris d'appel, tu vois. Qui appelait son compagnon de voyage. Et ça, c'est un des rares moments dans le jeu vidéo où j'ai eu une larme à l'œil, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, il se passe un truc, tu vois, tu te sens seul d'un coup. T'es perdu dans une immense étendue, tu vois. C'est un voyage qui est extrêmement difficile, tu sens que ton perso, il galère, etc. Et puis là, d'un coup, il perd la seule personne qui l'accompagnait, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, et c'est là que j'ai dit, voyez les mecs, émotion par les mécaniques de jeu, quoi. C'est magnifique. Et ça, c'est un des rares jeux qui réussit à le faire. Souvent, dans les jeux vidéo, en fait, ce genre d'émotion, tu vois, on essaie de le faire passer par de l'exposition, c'est-à-dire qu'en gros, t'as un dialogue, enfin, comme au cinéma, quoi. Alors que là, vraiment, c'est par de la pure mécanique de gameplay qu'on te fait passer ce genre de truc.
Ok. Non, et aussi, ce qui est très fort dans Journée, c'est que... Parce qu'il n'y a pas d'indication à l'écran, en fait. C'est un jeu où il n'y a pas de HUD. Mm. Et une fois que tu as fini le jeu, dans les crédits de fin, ils te mettent le nom du personnage, l'identifiant, par exemple, PSN du mec. Ah, de toute façon, ça peut être que l'identifiant PSN, puisque c'est une exclusivité. Mm. Mais ils te mettent l'identifiant avec le pseudo du mec. Par exemple, on va dire... t'as joué avec GameInfo 28, mmh. Et bah tu verras le pseudo GameInfo 28 qui sera crédité au long du jeu.
Voilà. Sachant que en plus tu te rends compte qu'après c'était pas un mec, c'était plusieurs mecs.
Ouais. Non mais ça c'est vraiment une idée brillante qu'ils ont eue sur ce moment-là quoi du jeu. Et quand tu te rends compte vraiment que c'était un autre personnage et que c'était pas une intelligence artificielle scriptée et que t'arrives à véhiculer certaines choses sans le moindre dialogue en fait. Mmh. C'est assez fort, quoi.
Et autre exemple pour moi qui reprend cette idée-là, et qui pour le coup est à mon avis magistral, c'est Brothers: A Tale of Two Sons. Alors j'en ai déjà parlé ici, mais pour ceux qui ne sauraient pas tout l'amour que j'ai pour ce jeu, Brothers: A Tale of Two Sons, c'est une idée de gameplay de base absolument géniale. Tu as deux personnages que tu vas contrôler en même temps, le grand frère avec un stick, et le petit frère avec l'autre stick. Et l'idée vraiment du jeu, c'est que tu vas suivre les aventures de ces deux frères qui vont essayer de sauver leur papa, en fait, qui est malade. En gros, le grand frère, si tu veux, c'est le mec un peu plus fort, tu vois, qui va aider son petit frère à faire la courte échelle, qui a certaines actions, et le petit frère, tu vois, c'est justement celui qui va se faufiler dans des endroits, etc. Et du coup, tout le long du jeu, en fait, tu as cette idée que il faut exploiter ce lien quasi viscéral qu'a le joueur avec la manette en liant vraiment le grand frère à un stick et le petit frère à un stick. Et à la fin du jeu, attention spoiler, tu as le grand frère qui crève. Et là donc, qu'est-ce qui se passe? Moment de révélation ludique en ce qui me concerne. Tu as une sensation de manque en fait. C'est-à-dire que quand tu bouges le stick qui correspondait au grand frère, ben, le gamin, il se met à pleurer, quoi. Et ça, c'est extraordinaire parce que, à ce moment-là, tu vois, tu as cette sensation de perte. Quel petit frère. Alors, évidemment, t'as l'émotion en plus parce que t'as quand même vécu un truc avec ce personnage. Mais en plus, t'as perdu ce personnage et tu le sens vis-à-vis du gameplay, quoi. Et là, si ce n'était que ça, t'arrives à la toute fin du jeu. Il y a un passage où, parce qu'il faut savoir que le petit frère ne sait pas nager, en fait. Et justement, celui qui savait nager, tout au long du jeu, c'était le grand frère. C'est lui, en fait, ce qui se passait, si tu veux, c'est qu'il se mettait dans l'eau, tu vois, et derrière, le petit frère s'accrochait à lui. Et ils nageaient ensemble, en fait. Et là, donc, t'as un passage où t'as une espèce de tempête, si tu veux. Il y a une étendue d'eau que le petit frère doit traverser. sauf qu'il sait pas nager. Et là, tu commences à aller dans l'eau, et tu te rends compte qu'il arrive pas à avancer. Et là, t'as une idée. T'appuies sur le stick du grand frère. Et là, le petit frère commence à nager. T'entends la voix du grand frère qui encourage le petit frère. Et il avance. Mais c'est, enfin, extraordinaire. C'est un moment, enfin déjà, là, Madeleine, enfin, je chialais tout le long de la séquence, tu vois. Et en plus, c'est vraiment la révélation, tu vois, c'est le moment où je me suis dit, putain, mais c'est ça, c'est ce genre de truc qu'il faut faire, quoi, tu vois, c'est l'émotion par le gameplay, mais c'est exactement ça, c'est exploiter l'interaction à fond pour produire ce genre de truc où tu te rends compte que, par les mécaniques, eh bien, tu provoques quelque chose chez le joueur, quoi. Et ça, ce jeu, il est extraordinaire pour ça. Et le pire, ce qui est, je trouve, incroyable, c'est que le mec qui est derrière ce jeu, c'est un mec qui vient du cinéma.
Comme quoi, hein. Comme quoi, ceux qui arrivent à maîtriser mieux les mécaniques de jeux vidéo, c'est pas forcément ceux qui les créent.
Voilà.
Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que le mec vient du cinéma et ne fait pas justement du cinéma. Contrairement à d'autres gens qui font du jeu vidéo, mais qui font comme au cinéma. Là, le mec utilise des mécaniques de gameplay pur et dur pour te faire passer un message qui est fort, tout en apportant une valeur scénaristique à son truc.
Il voit le potentiel du truc, en fait, et il veut exploiter quelque chose de nouveau, quoi. C'est-à-dire que du cinéma, il en a fait toute sa vie, il a pas envie, si c'est pour faire du jeu vidéo, il a envie de faire autre chose, quoi, entre guillemets. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, comme il a un regard un peu extérieur au truc, il a envie de tester des choses. Alors que dans le jeu vidéo, finalement, on a beaucoup de personnes qui essaient justement de s'inspirer du cinéma, quoi.
Ouais, c'est ça qui... Enfin, moi, je trouve l'idée, quoi, elle est juste ouf, quoi. Mmh. Et puis, enfin, les mecs qui font du jeu vidéo singent le cinéma sans avoir, si tu veux, le talent du cinéma. Alors que le mec, là, il vient du cinéma, mais... utilise 100% si tu veux les outils qu'il a à disposition.
C'est le seul jeu à ma connaissance qui exploite vraiment de manière aussi viscérale, tu vois, ce rapport à la manette. Un autre exemple, tu vois, dans le jeu, il y a un passage, si tu veux, où t'es au-dessus du vide, en fait. Les deux frères sont rattachés à une corde, et l'idée, c'est qu'il y a un frère qui se tient à une poutre, si tu veux, et t'as l'autre qui saute dans le vide pour se balancer, tu vois, et se raccrocher à une autre poutre. C'est une des rares fois dans le jeu vidéo où j'ai une véritable sensation de vertige, en fait. Parce que j'avais vraiment cette sensation, si tu veux, que si je lâchais un des deux sticks, tu vois, les deux phares tombaient.
Ouais.
Et j'avais vraiment cette sensation où j'étais pas bien, quoi.
Maintenant, pour revenir à mes exemples des jeux qui m'ont marqué par rapport à ça, je vais faire deux spoilers énormes sur MGS3 et Red Dead Redemption. Mais c'est obligé pour expliquer pourquoi, justement, ces moments-là m'ont marqué. Donc, si vous n'avez pas fait ces jeux-là, je vous conseille de fuir tout de suite. Je vais commencer par MGS3. MGS3, en fait, c'est une histoire où le Big Boss, qui est encore un novice, va affronter son mentor, qui est une femme du nom de The Boss. Et une fois que tu arrives à la fin du jeu, tu te rends compte, bah, avec tout ce que tu as traversé, etc., qu'il y a eu une petite histoire d'amour entre eux, enfin, que, surtout que lui, il l'aimait, mais pas forcément elle. Et à ce moment-là, tu fais le combat final. Et une fois que tu l'as affronté et que tu as gagné, The Boss reste à terre et te donne son arme, en fait. Te donne son arme et là, tu vois, l'écran redevient comme un écran de jeu, mais à ce moment-là, tu vois Snake qui reste comme ça, mais qui ne tire pas tout de suite, en fait. Et moi, je me rappelle que j'avais posé la manette, je me suis dit, bon, bah, il va la buter, en fait. Et là, donc, il hésite. Et je suis resté, je me rappelle, au moins bien 2-3 minutes. Mais je me suis dit, putain, mais c'est long, là, quand même. Vas-y, tire, quoi. Et en fait, là, non, l'action ne s'enclenche pas tant que le joueur n'appuie pas sur la manette, en fait.
Énorme.
Tu prends le pas sur la volonté de Solid Snake, enfin de Naked Snake, pour lui faire abattre son mentor, parce que lui, il ne voulait pas, en fait. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est moi qui a tué The Boss, quoi. Tu vois. Et j'ai trouvé ça, en fait, avec, si tu veux, sans toute l'histoire qu'il y a eu entre les deux, etc., bah, ça n'aurait eu aucun intérêt. C'est-à-dire, voilà, tu affrontes un mec, t'appuies sur le bouton R1 pour le buter. Non, ça n'aurait eu aucun sens.
C'est ça.
Et l'autre chose dont je voulais parler, c'était Red Dead Redemption. Le jeu, en fait, nous demande de traquer une bande de hors-la-loi. Et une fois qu'en fait que t'as réussi à éliminer tous les membres du gang, de ton ancien gang, en fait, le jeu se passe de manière tout à fait normale. C'est-à-dire que le gouvernement avait pris la femme de John Marston et son fils, Et une fois que t'as fini, bah, tu retrouves ta femme et ton fils, tu fais des quêtes banales, quoi. C'est-à-dire que tu t'occupes de ta ferme, tu dois rentrer les vaches, etc. Et puis tu penses que, en fait, le jeu, à ce moment-là, c'est un happy end. Et dans Red Dead Redemption, en fait, il y a une mécanique que John Marston a, c'est la capacité du bullet time. Donc, il ralentit le temps, et puis à ce moment-là, tu peux faire des headshots sur les ennemis que tu croises. Et en fait, là, le gouvernement, tu te rends compte, parce que comme t'étais en fait le dernier membre du gang, et que tu connaissais un peu les secrets inavouables du FBI, bah, ils viennent pour te buter. Mais sauf qu'ils t'envoient pas 3-4 mecs pour venir te buter, ils t'en envoient au moins une cinquantaine.
Ils sont réalistes.
Voilà, mais en fait, au début, ça se passe comme un niveau classique, quoi. Donc, t'affrontes les mecs dans ta ferme, etc. Et puis, au bout d'un moment...
T'es enfermé dans ta grange.
Voilà, t'es encerclé dans ta grange, t'es enfermé, et tu ouvres la porte. Et là, le jeu, à ce moment-là, te fait croire que tu peux t'en sortir. Puisqu'il active un bullet time, mais vachement plus long.
Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans la mise en scène, c'est vraiment... Tu vois John Spartan qui est là, qui respire. Et là, tu vois ses deux bras qui ouvrent petit à petit la scène. T'as un bullet time qui se déclenche, mais
ouais.
Au fur et à mesure, tu commences à compter le nombre de mecs qu'il y a. Et au fur et à mesure, tu te dis... Oh merde.
En fait, jusque-là, le jeu te fait croire que au début, il y a moyen de s'en sortir. Tu te dis, oh, en fait, là, il est vachement vénère. Il va avoir un bullet time ultra puissant. Il va tout se défoncer. Mais non, parce qu'au fait, au fur et à mesure, tu vois que l'effet s'estompe. Et puis après, là, tu reviens en fait à un contrôle, on va dire, classique. Mais là, tu ne peux plus rien faire parce que ils sont tellement trop en face de toi que littéralement, bah, votre personnage est troué de partout.
Toi aussi, t'as essayé de recommencer pour...
Bah, en fait, non, parce qu'une fois que ils t'ont mis à mort, là où ça m'a un peu ému, c'est que le fait que tu joues son fils, en fait. Tu peux continuer, en fait, si tu veux, à explorer le monde de Red Dead Redemption. Sauf que moi, ça m'a pas intéressé, en fait, de jouer avec lui, parce que c'était pas le personnage que j'avais vécu toutes mes aventures.
Ouais.
Et je suis parti me venger du mec qui avait commandité l'assassinat de mon père avec... tu sais, j'avais vu le mec, c'était devenu un vieux qui allait quasiment bientôt mourir. Mais il fallait quand même que, si tu veux, que je le bute, quoi. Je pouvais pas le laisser mourir de vieillesse, même si je voyais qu'il avait quasiment plus rien.
T'as tué mon bonhomme.
Voilà, il devait payer par la conséquence de ses actes. Le jeu te laisse un goût amer, quoi, dans la bouche, tu vois.
C'est pensé pour, en fait. C'est ça, le
ah
truc.
Oui, non, mais...
C'est ça qui est extraordinaire, hein, dans Red Dead Redemption.
Et ce que, moi, j'ai bien apprécié, c'est le fait que, bah, ils utilisent la mécanique principale de John Marston à la fin du jeu pour te faire croire que l'échappatoire est possible, mais, en fait, non, il n'y a pas d'échappatoire à partir de ce moment-là, quoi. C'est fini, quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, même si tu recherches la partie, tout ça, bah, tu pourras plus jouer avec ton personnage, donc t'es obligé de recommencer le jeu, en fait.
Ils arrivent à créer une sensation d'empathie, en fait, que très peu de jeux arrivent à créer, quoi.
Voilà.
Le fait que ce soit toi qui appuies sur la gâchette, bah, c'est ça qui fait que c'est toi qui fais l'action, en fait. Donc, du coup, ben, voilà, ça t'implique 10 000 fois plus que n'importe quelle scène d'exposition, tu vois, n'importe quelle scène cinématique, où finalement, c'est pas toi qui fais l'action ou t'es spectateur, quoi. C'est ça qui manque, à mon avis, dans pas mal de jeux. Ce sont des gens qui aient les couilles de poser leurs balls sur la table et de dire « Non, ça, c'est toi qui vas le faire, mec. C'est toi qui vas assumer tes actes, quoi. »
Ouais, exactement. Parce qu'après, il y a beaucoup de jeux que voilà qui m'ont marqué, mais après, c'est purement scénaristique, tu vois.
Parce que, par exemple, moi, mon jeu préféré, c'est un jeu qui m'a fait chialer tout le long sur la fin, c'est Skies of Arcadia. Mais il faut reconnaître une chose, si tu veux, c'est un RPG très classique. Où finalement, toute l'émotion vient de l'exposition, de l'univers, tu vois. Enfin, de choses très visuelles, et pas tellement des mécaniques de jeu en elles-mêmes, quoi.
Ouais, mais après, voilà, le RPG, on va dire que, tu vois, ça serait plus un genre littéraire, comme un livre.
C'est ça.
Donc, à ce niveau-là, ça peut s'expliquer. Mais après, ça n'empêche pas que, voilà, on peut innover.
Bah, par exemple, alors je sais que je cite à chaque fois, mais Alpha Protocol.
Bah tiens, d'ailleurs, Alpha Protocol, il n'y a pas eu des moments qui t'ont marqué sur...
Alors, Alpha Protocol...
En termes d'émotion.
Comment dire? En fait, c'est un jeu qui m'a plus marqué en termes d'empathie vis-à-vis des personnages, quoi. C'est-à-dire que... Ce qui est intéressant dans Alpha Protocol, si tu veux, c'est que c'est un des rares jeux qui arrive à créer des personnages avec une psychologie. Et pourquoi? Parce que, justement, cette psychologie sert aux mécaniques de jeu. C'est-à-dire que c'est un des seuls jeux, à ma connaissance, où tu dois vraiment cerner la personnalité du mec qui est en face. Dans la plupart des RPG, si tu veux, t'es assez passif, finalement. C'est-à-dire que tu t'en fous du mec que t'as en face, quoi. C'est-à-dire que soit tu joues un connard, soit tu joues quelqu'un de bien, soit tu joues quelqu'un de neutre. Mass Effect. Et finalement, peu t'importe la personnalité du mec que t'as en face, c'est pas ça qui compte. Ce qui est extraordinaire avec Alpha Protocol, c'est que par ses mécaniques, il te force à développer une certaine empathie. Parce que si t'as pas d'empathie pour les mecs, si t'arrives pas à cerner leur personnalité, t'obtiendras pas ce que tu veux. Alors, du coup, le revers de la médaille, si tu veux, c'est que comme moi, Alpha Protocol, je l'ai vraiment joué à fond en mode agent secret qui manipule les gens pour arriver à ses fins, il y a une distance, si tu veux, qui se crée vis-à-vis des personnages. Mais je pense qu'il y a moyen, tu vois, avec ce système de jeu-là, si on intègre la personnalité des persos dans les mécaniques, ça te pousse en fait à t'intéresser à la personne qui est en face de toi, quoi.
Et ce qui est fort dans Alpha Protocol, bah justement, c'est contrairement aux autres exemples qu'on a cités, c'est que là, ils le font sur toute la durée du jeu. Ouais. Alors que dans Brother, Tale of Toulson, Metal Gear Solid 3 et Red Dead, ça arrive à un moment charnière, si tu veux, de l'histoire.
Alors après, je vais nuancer un peu, c'est-à-dire que Alpha Protocol, ça reste, entre guillemets, une mécanique où t'es dans un menu, tu vois, et où tu choisis entre A, B ou C. C'est juste que, fondamentalement, ils l'ont exploité différemment, si tu veux. En gros, la différence avec un Brother of Tales of Sons, c'est que Brother of Tales of Sons, il t'exploite l'interaction vraiment avec la manette, tu vois. Alors ouais. Que là, Alpha Protocol, il reprend des mécaniques qui sont déjà connues, sauf que, il introduit la notion de psychologie dedans. Et c'est ça qui fait toute la différence.
Bah, surtout que, comme t'as dit, il faut cerner la personnalité du personnage qu'on a en face, et ça, c'est le point fort, c'est que c'est-à-dire que là où dans un Mass Effect, tu choisis la réponse conciliante, la réponse neutre, la réponse pragmatique, dans Alpha Protocol, t'as pas ces nuances-là. C'est plus un ton que ton personnage adopte qu'une réponse directe et brève, quoi. Soit tu vas répondre d'un ton amusé, soit un peu vénère, et là, ça va changer vraiment les choses, et ça fait en fait un mini-jeu dans le système de dialogue, quoi.
C'est ça. C'est exactement ça. Et pourquoi je tenais à parler d'Alpha Protocol? Parce que finalement, vous me dites, oui, mais là, tu ne parles pas d'émotion, tu ne parles de mécanique qui te pousse à t'intéresser au personnage. C'est vrai. Mais, justement, je pense que exploiter intelligemment ce type de mécanique pourrait créer des émotions venant de l'interaction que tu as eue avec les persos. Et pas juste de l'exposition qu'il y a eu dans certaines scènes. C'est pas basé que sur la mise en scène, ça exploite vraiment la spécificité du média jeu vidéo, quoi.
Et je voulais savoir, justement, en termes d'émotion, si toi, il y avait des jeux qui t'avaient suscité de la colère.
Alors là, je t'avoue que la colère, vraiment, pour moi, c'est un sentiment que j'ai... Enfin, alors j'ai ressenti de la colère vis-à-vis des jeux qui étaient mal branlés, hein, ça, c'est un autre truc. Mais par contre, vraiment, quand j'étais ado, Final Fantasy VII,
Final Fantasy VII.
Ben le moment Sephiroth, bon spoiler.
Ouais, bah, non mais attends, c'est, tout le monde l'a connu sur internet même.
Le enfin, moment c'est le moment Sephiroth, tu as Iris, enfin je veux dire t'as un peu la haine quoi sur le goût quoi quand même. Surtout quand t'es un peu ado, tu vois, t'es un peu con donc.
Mais justement t'étais plus en colère en termes scénaristiques ou bien juste qu'il venait de te buter ton healer.
Non mais j'avais envie de buter Sephiroth parce que quand j'étais gamin, j'étais attaché à Iris. Alors aujourd'hui à Iris, je trouve que c'est un personnage totalement transparent. Mais tu vois, quand j'avais 12 ans, ça fonctionnait à fond. C'est-à-dire que Sephiroth, je voulais le buter, quoi.
Le fait qu'il te bute ton personnage qui est le soigneur du groupe, c'est ça qui m'a plus fait chier qu'il bute.
Ah bon
qui, en fait. Ouais. Aerith, c'était le personnage magie blanche, tu vois, qui avait les magies comme soin, résurrection, etc. Et là, les combats, en fait, après ce moment-là, ils sont vachement plus difficiles parce que t'es obligé d'avoir des potions sur toi, alors que d'habitude, moi, dans les RPG, les potions, tu vois, je les utilise vraiment en cas de dernier recours. Il y a un personnage qui rejoint un peu plus tard le groupe, qui a ce rôle justement de soigneur, c'est Cat Sight. Mais en termes de design, tu vois, Cat Sight, il est tout pourri par rapport à Iris, par exemple, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un chat sur une boule.
Ou un autre jeu qui m'a vraiment foutu les boules, entre guillemets, c'est le jeu Game of Thrones. RPG par comment il s'appelle
Cyanide.
Cyanide, voilà. Il y a, bon, je vais pas.
Bah, tu peux mettre le spoiler alert.
Ouais, spoiler alert. Alors, en gros, le truc c'est que pendant tout le jeu, tu joues deux personnages de manière alternative, et au fur et à mesure, tu te rends compte que ces deux personnages ont un passé en commun, et tu te rends compte en fait qu'un des deux personnages a trahi l'autre. Et c'est un des rares moments, si tu veux, où j'ai ressenti un moment de colère. Parce que tu te rends compte de l'ampleur de la trahison, en fait, d'un des deux persos, quoi.
Ouais.
Tu dois choisir lequel va survivre, quoi, entre guillemets. Et moi, j'ai choisi, en fait, celui qui a été trahi, justement, parce que je trouvais la trahison impardonnable, quoi. Et c'est vraiment un des rares moments de colère, si tu veux, où le mec, je suis arrivé, mais... à la Game of Thrones, quoi, tu vois, c'est... Pff, je te bute. On la règle à l'ancienne, quoi, si tu veux.
Mais moi, c'est pas... je suis pas quelqu'un de très colérique, en règle générale. Mais il y a quand même des jeux qui m'ont envie de... de tout brûler devant moi, de détruire la planète, quoi. Tellement ils m'ont énervé.
Ouais, mais ça, c'est j'ai envie de dire, ça a rien à voir avec... En général, c'est pas des mécaniques voulues, quoi, si tu veux, c'est vraiment des
ah
jeux...
Ah non, mais c'est des mécaniques, c'est juste, des jeux qui ont suscité en moi de la colère, quoi, pure et dure. C'est, je voulais parler de Ninja Gaiden et Ninja Gaiden 2,
ouais.
Donc sorti sur Xbox 360 et Ninja Gaiden Sigma qui était lui sorti sur PS3. Alors, c'est un beat'em all, donc en 3D. Par exemple, là, on parle d'une difficulté atroce dans les Dark Souls et tout. À côté de Ninja Gaiden, c'est du pipi-cha. Parce que Ninja Gaiden, j'ai essayé de, bon, la première fois, tu vois, j'avais fait les Devil May Cry, Bayonetta, enfin, tu vois, ces genres de jeux-là, tu vois, c'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Et là, je joue à Ninja Gaiden. Je mets le mode normal. Je me fais pourrir la gueule par les ennemis. C'est-à-dire, en fait, le jeu est tellement exigeant dans ses mécaniques, qui te demande tellement une précision de tous les instants du diable. En fait, il m'a fait tellement rager que j'ai dû passer le jeu, si tu veux, en mode facile, au début. Donc je me suis senti un peu faible. Et j'ai fait le jeu en mode facile. Et après, une fois que j'avais maîtrisé le gameplay, j'ai pu le faire en mode normal. Et après, j'ai fait en mode difficile, mais j'ai abandonné vite fait. Et quand je vois qu'il y a des mecs qui arrivent à le finir en mode master, je sais pas quoi, là. Mais ce genre de jeu-là, ça me sort par la tête. Mmh. Petit moment anecdote sur ma vie. Un jeu qui m'a fait péter une télé.
Sérieux?
Ouais, non, mais...
Rappelle-moi de ne jamais jouer avec toi, TH.
C'était une petite télé de mer, tu vois, écran cathodique et tout ça. Et je jouais, en fait, à Need for Speed Undercover 2, je crois. Underground 2, excuse-moi. Sur PlayStation 2. Et au bout d'un moment, en fait, il y avait une course qui était tellement mal réglée que je voulais vraiment la faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans tricher, etc. Et avoir le bon temps et tout. Et j'y arrivais pas pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'ai pas réussi. Au bout d'un moment, j'ai tellement pété un câble que j'ai mis un coup de poing dans la télé. La télé a rebondi, a tapé le mur de derrière et est tombée par terre et a totalement explosé. Et voilà, c'est le seul moment où j'ai pété une télé ou une manette ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était la colère qui est sortie de moi et j'ai explosé une télé à ce moment-là. Et là où je voulais revenir sur Dark Souls, à un moment où le jeu m'a mis hors de moi, c'est pas Dark Souls, c'est Demon's Souls en fait. Dans Demon's Souls, il y a un niveau qui est totalement empoisonné. C'est-à-dire, en fait, vous traversez à chaque fois une espèce de petit lac, vous avez toujours les pieds dans l'eau, et à chaque fois que vous avez les pieds dans l'eau, en fait, c'est toujours, toujours, toujours empoisonné, et donc vous subissez des dégâts.
Il y a l'équivalent en Dark Souls, ceci dit. Hein.
Ouais, sauf que, tu vois, Dark Souls, la zone qui est dans Dark Souls est rikiki par rapport à celle de Demon's Souls qui a ça.
D'accord.
Et cette zone-là, dans tout le jeu, déjà, il n'y a pas d'objet qui t'immunise contre le poison. Il y a des objets qui te permettent d'avoir une meilleure résistance au poison, mais quoi qu'il arrive, tu vas perdre des dégâts. Et donc, tu traverses ce lac. T'es ralenti par l'eau, donc tu vas pas très vite. Et à ce moment-là, donc, t'as des invasions qui arrivent dans ta gueule. Tu vois, les invasions du jeu qui te mettent un PNJ vachement balèze et tout ça, qui, lui, n'est pas soumis à cette gravité-là. Donc, il vient, il te poutre la gueule. Parce que lui, il peut marcher sur l'eau comme s'il passait sur la terre ferme. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à trouver le jeu vachement injuste. Mais faut savoir que avec ça, il y a des espèces de petits connards de merde, là, qui te tirent dessus avec des sarbacanes empoisonnées. Mais il y en a partout, ils sont sur des poutres, enfin, sur des espèces de tourelles et ce genre de choses-là, des barricades.
Alors moi, tu vois, c'est ce passage-là qui m'a rendu fou dans Dark Souls, c'est pas tant la zone empoisonnée, en fait, c'est la zone de plateforme.
Mais là, tu vois, dans Demon's Souls, t'as la zone empoisonnée, mais en plus, ça, t'es ralenti par l'eau.
Ouais, d'accord. Et en plus, t'as les mecs qui te tirent dessus, quoi, d'accord.
Voilà. Et puis, t'as un connard qui vient, qui t'envahit à ce moment-là, tu vois, qui t'envahit à ce moment-là, qui lui n'est pas soumis à cette physique de lenteur sur l'eau. Donc il vient, il court sur l'eau et comme ça, il te poutre la gueule et toi donc à ce moment-là, la seule chose que t'as envie de faire, c'est de brûler ta console, littéralement.
Mais ça, tu vois, c'est des mécaniques, enfin, pour le coup, c'est involu. Par contre, il y a des moments où où j'étais en colère dans Dark Souls, effectivement, c'est les moments où je faisais de la merde, tu vois. mais ça, il y a des moments où, alors autant il y a des zones, genre, tu vois, typiquement la zone, de plateforme dans Dark Souls qui est un peu comme ça, tu sais, avec ces saloperies qui te tirent des trucs empoisonnés.
Ouais.
Enfin, elle m'a rendu fou cette zone, mais vraiment littéralement. Enfin, c'est les mecs, ne mettez pas de la plateforme dans des jeux qui n'ont pas été conçus pour, s'il vous plaît. Par pitié, ne faites jamais ça parce que c'est une horreur. Mais par contre, il y a vraiment des passages où, enfin voilà, c'était de ma faute et en fait, t'es dégoûté quoi parce que c'est toi qui as fait de la merde quoi. Il ouais. T'es vraiment en colère vis-à-vis de toi, Malune, quoi, en fait. Tu te dis, putain, mais quoi, espèce de gros con. Voilà, t'es content, hein, maintenant, tu dois tout recommencer.
Ouais, après, on peut dire aussi, par exemple...
Typiquement, la forteresse de Cède, il y a plein de passages où là, c'était de ma faute et où ça me faisait péter un câble. Hein.
Ah, mais moi, la forteresse de Cède, j'ai tellement kiffé ce moment.
Moi, ça a été très pénible.
Mais par exemple, tu vois, dans les jeux comme ça, où là, je parle de plusieurs genres en général, parce que c'est pas forcément lié, si tu veux, à Dark Souls, mais au bout d'un moment, le jeu te met une étape, soit c'est un boss, soit une zone qui est totalement infranchissable, et tu te dis à ce moment-là, ouais, là, c'est le jeu qui est injuste, donc là, t'es en colère vis-à-vis du jeu, tu ouais. vois, parce que tu te dis que le jeu a été mal programmé ou mal pensé à ce moment-là. Et ce genre de choses-là, heureusement qu'aujourd'hui, on en a beaucoup moins, mais je me rappelle qu'à l'époque... Surtout les jeux en 2D par type Batman sur Game Boy, j'ai jamais réussi à le finir, quoi, tellement ce jeu là était injuste. Ou bien je me rappelle aussi d'un autre Batman sur Game Gear, c'était je crois le Batman Returns, et j'ai affronté un boss au bout d'un moment, et le boss, si tu veux, il faisait la taille de l'écran. Mmh. Et il te fonçait dessus en te chargeant sur tout l'écran. Aucune possibilité de l'éviter. Je trouvais le jeu à ce moment-là totalement injuste, et je pouvais pas le passer. Et je me rappelle que dans le jeu, tu pouvais mettre Star, et t'avais un bonus qui permettait de faire des dégâts. Donc, à chaque fois que je recommençais le jeu, j'économisais toutes mes Batmobiles pour passer ce passage-là. Et j'ai jamais réussi à le passer. Sauf que j'ai réussi à le passer que en 2014, quand j'ai refait le jeu en émulation. Où là, j'étais un peu plus grand, j'étais un peu mieux préparé. Mais je me suis dit quand même que ce passage de jeu était vraiment mal branlé. Et je crois que le boss en question, c'est un espèce de robot en métal géant. Totalement immonde, quoi. Alors que tu vois, le boss de fin, c'est le pingouin et tu lui mets 3-4 tordions dans la gueule, c'est fini.
C'est ça. Bon, Adéa, je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Alors, on n'a pas parlé d'émotions, tout ce qui est sensualité, tu vois, ce genre de choses. Faut dire que c'est quelque chose qui est assez peu exploité, je veux dire, à part dans certains jeux japonais un peu obscurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui est totalement inexistant, je trouve, dans le jeu vidéo, en fait.
On va dire, la majorité des jeux, c'est, voilà, ils te mettent... des héroïnes à forte poitrine.
Ouais, mais c'est vulgaire, c'est pour adolescents, tu vois.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est vachement cliché, et d'ailleurs, voilà, c'est pas toujours justifié dans... Ça n'importe rien, en fait, en termes de scénario du jeu, ou... Voilà, c'est du fanservice pur et dur.
Disons que les moustillages adultes, enfin, il y en a assez peu dans le jeu vidéo, quoi, et c'est... Enfin, ça, pour moi, ça démontre un peu, tu sais, la... Par certains aspects, le manque de maturité du média, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, comme le sexe, c'est un peu quelque chose qui est un peu tabou, on peut buter 3 milliards de personnes, mais le sexe, pas touche, hein. Attention. Du coup, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas dans le média, quoi. Sauf peut-être un peu dans The Witcher, encore que...
Après, ça vient d'un genre littéraire, ça vient d'un livre. Mm. Donc, tu vois, c'est vrai que juste une histoire d'amour simple entre plusieurs personnages, c'est vachement mal amené. Même, je me rappelle que dans Assassin's Creed 4 Black Flag, il y avait une histoire d'amour entre le personnage principal et une femme. Et en fait l'histoire, bah c'est voilà, c'est totalement cliché et elle est bidon. Dans Assassin's Creed 2, il y avait un autre personnage aussi également qui était importante pour Ezio, qui disparaît totalement dans Brotherhood et dans Révélation, alors que c'était un personnage vraiment super important, tu veux, dans Assassin's Creed 2. En fait, j'ai l'impression que les personnages féminins, ils servent pas à grand chose dans les jeux vidéo. Et j'ai pas ça parce que voilà, je suis un gros connard.
C'est un constat, malheureusement. Enfin, tu vois, justement. Non, mais le reconnaître, c'est que, c'est identifier le problème.
Il y a toujours des gens qui vont te sortir un exemple pour te dire oui, c'est ça, mais c'est, si tu vas me sortir un exemple, mais ça sera des exceptions par rapport à la masse de jeux qui sortent.
Ouais.
Tu vois, par exemple, il y a un truc que je pensais récemment, c'est dans les JRPG. La plupart du temps, tu joues un héros qui se réveille du lit, qui se fait réveiller par sa maman. L'enfant n'a jamais de papa.
Tu sais pas, ils sont passés.
Voilà. Par exemple, pour référence à leur Pokémon, vous réveillez, c'est votre mère qui vient vous lever. Chrono Trigger, c'est votre mère qui vient vous réveiller. Je peux t'en citer encore plein des jeux comme ça. Et on se demande à chaque fois où est-ce qu'il est le père. Donc, il n'y a pas d'histoire d'amour, si tu veux, entre les deux parents. Toi, t'as pas justement cette attache paternelle. Il y a beaucoup de jeux où quand il y a le père, et ben en général, le père, c'est le connard de l'histoire et tu veux buter pour te venger de ton père.
Cliché,
tout
ça, ouais, tu le perds.
Voilà. Mais au final, c'est vrai que, à part The Witcher, où tu peux construire vraiment une relation sur le long terme, il n'y a rien de spécial.
T'as, en gros, deux personnages principaux vers lesquels Geralt a un intérêt amoureux, enfin romantique, dirons-nous. Et vraiment, ce qui est intéressant dans The Witcher 3, c'est le fait qu'il est partagé entre les deux, quoi. Yennefer, entre guillemets, c'est sa compagne officielle, dirons-nous, en tout cas celle avec qui historiquement, et Triss, c'est celle avec qui il a construit une relation pendant qu'il avait oublié en fait. Et du coup, il doit faire le choix entre celle avec qui il a toujours vécu, entre guillemets, par là, son ancienne vie, et avec Triss, sa nouvelle vie. D'ailleurs, je vous incite à aller voir, je crois qu'il y avait un épisode d'Extra Credit sur le sujet qui était vraiment très bien écrit, et qui expliquait ça très bien. The Witcher est très fort à ce niveau-là. Alors par contre, j'avoue que les scènes du cul, c'était un peu... Enfin, c'était un peu mal amené, je trouve, hein, personnellement, mais... En fait, j'ai trouvé, tu sais, il y a des scènes qui sont vachement bien écrites, genre le passage où tu t'introduis chez le Jarl pour voler un objet, tu vois. Enfin, il y a une scène à ce moment-là où t'as un contact entre les deux personnages qui est vraiment super bien mis en scène, je trouve.
Quand tu parlais des scènes de cul, ça m'a fait penser tout de suite à Mass Effect.
Ah oui.
Mais tu vois, dans Mass Effect, il y a aussi une histoire d'amour que tu peux faire sur le long terme. Tu gardes un personnage de Mass Effect 1 et puis au final tu retrouves dans Mass Effect 3. C'est vachement mal amené dans Mass Effect ce genre de romance.
Ouais.
C'est-à-dire en fait, Shepard, il est un peu comme un McDo quoi. Il y a plein de menus et il choisit celui qu'il veut quoi. Genre bon alors il y a Lyra, ouais, Miranda, d'accord, et puis en fait, il peut goûter un petit peu à tout ce qu'il veut.
Oui, c'est ça, c'est vraiment ça.
et ce que je trouve à chaque fois super mal amené en fait, c'est que en fait, à chaque fois, tu fais le jeu de manière, voilà, classique, et tout ça, t'avances. Et puis, juste avant la bataille finale, tu vois, il faut que, je sais pas, il tire son coup, tu vois.
Il faut que tu choisisses si tu vas tremper le biscuit, quoi.
Voilà. Et ça, c'est dans les trois Mass Effect. Lorsque vous savez que vous arrivez au moment de la bataille finale, rassurez-vous d'être au niveau de votre romancement avec le personnage que vous voulez.
Et par contre, tu vois, il y a un jeu qui faisait ça très bien, dans la romance. C'était Baldur's Gate 2. Parce que dans Baldur's Gate 2, en fait, quand t'es en relation romantique avec une nana, mais imaginons tu joues sur les deux tableaux, hein, typique des joueurs, n'est-ce pas? Ben, disons que ça crée des tensions dans le groupe. Tu vois, mais genre des vraies tensions, quoi. Genre, ça peut aller jusqu'à se foutre sur la gueule, tu vois, potentiellement, hein. Et j'ai trouvé ça vachement bien amené, quoi. C'est-à-dire que t'es bien gentil, Coco, de draguer à droite et à gauche, mais ça marche pas comme ça, en vrai, tu vois, hein. Et par contre, ce que je trouve aussi ridicule dans pas mal de RPG qui ont la prétention de faire des romances, tu sais, c'est genre, alors ouais, si tu veux augmenter tes points de romance avec machin, il faut que tu lui offres un cadeau, tu vois.
Ouais, bah oui. C'est... Tu offres une boîte de chocolat et...
Typiquement Dragon Age, c'est ça, quoi. C'est, vas-y, offre un cadeau pour augmenter tes points de romance. Mm-hmm. D'accord.
Ouais, mais ça reste quand même un peu mieux fait que dans GTA ou genre tu vois Nico Bellic dans GTA 4.
Ah non, ATH, il y a pire que GTA, il y a Sleeping Dogs.
Ah non, mais Sleeping Dog, dans Sleeping Dog, il trempe pas le biscuit.
Ah oui.
Parce que la meuf, il fait genre quelque chose de bien avec elle et puis après elle disparaît. Alors que moi, tu vois, Nico Bellic, il a le numéro par exemple, de Michel dans le portable et il appelle, il dit bon vas-y passe chez moi. Bon, le mec il l'emmène au bowling et après c'est soirée olé olé toute la nuit quoi. Toujours GTA 4 où quand tu vas surfer sur internet, tu peux draguer aussi des nanas sur le site de rencontres factices, mais pour draguer la nana, en fait, tu envoies juste un email et puis c'est bon, quoi. Elle donne rendez-vous au KFC et puis après, c'est parti, quoi. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites, notamment sur la cosmétique de ton personnage. Par exemple, il faut que, pour que la nana te plaise, il faut que tu sois habillé d'une telle manière, quoi.
C'est ça, très superficiel, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que, en gros, en fait, dans les jeux vidéo, si vous arrêtez qu'à ça, pour séduire une fille, donc il faut être bien habillé et offrir des cadeaux.
Voilà, c'est ça.
Après, en termes de jeux vidéo pur et dur, on va dire peut-être la seule vraie histoire d'amour qui soit legit, on va dire, c'est peut-être finalement celle de Squall dans Final Fantasy VIII, quoi.
Oh non, pitié ATH, non. C'est mièvre quand même, vous m'excuserez, mais putain, histoire d'amour dans Final Fantasy.
Ça reste une histoire d'amour quand même, je suis
désolé. Ouais, ouais.
Mais après, voilà, c'est pour te dire que la richesse des histoires d'amour dans le jeu vidéo, c'est pas folichon,
et
quoi.
Et en plus, enfin moi, ce que je trouve regrettable, c'est que... Je connais assez peu de jeux, par exemple, qui traitent la thématique du couple, quoi, tu vois. À part Catherine. C'est-à-dire que on t'explique bien que, alors oui, être en couple, c'est pas facile tous les jours. En gros, Vincent, si tu veux, enfin, le héros du jeu, c'est quelqu'un, bah, justement, qui a un peu trop trempé son biscuit, pour le coup, et qui va avoir un gosse et qui l'assume pas. Et ça, tu vois, c'est quelque chose... Non, dans le jeu vidéo, c'est en gros, la relation, ça se limite à séduire, tirer son coup, et basta, quoi.
Ou bien tu vois genre dans Heavy Rain au début le personnage d'Ethan il est marié avec sa femme etc, c'est le bonheur, il a de l'argent et tout se passe bien. Après se passe un moment dramatique où il divorce de sa femme et voilà, il est un peu déprimé et tout. Et là, dans le jeu, tu as un autre personnage que tu contrôles, donc qui est la journaliste. Et puis, tu sais pas pourquoi, au bout d'un moment, bah, ils sont amenés à se rencontrer dans l'histoire. Mais t'as une scène de cul qui intervient comme ça au bout d'un moment avec les deux personnages. Voilà, totalement comme ça, comme par hasard. Et il y a aucun truc qui est mis en avant, genre ils sont pas séduits au début et tout. C'est genre à ce moment-là, tu me plais, bah il faut qu'on David Cage a dit à ce moment-là, il faut mettre du cul.
Est-ce que tu baises?
Voilà, c'est ça. Et si tu veux, c'était amené tellement de manière maladroite. Et tu vois bien qu'à ce moment-là, elle a été mise juste pour te montrer voilà des fesses.
Voilà. Belle conclusion au podcast, je pense.
Oui, je pense que...
Alors, il y a quand même des jeux qui ont réussi, je trouve, à aborder cette thématique. Enfin, c'est tous les jeux, tu sais, où t'as une relation filiale, en fait. C'est-à-dire, par exemple, les Dragon Quest. Et c'est vachement intéressant, ça, parce que justement, tu vois la constitution du couple, puis après, tu vois les enfants qui arrivent. Et, mais ça, encore une fois, c'est assez rare dans le jeu vidéo. Bon, on s'arrête là, TH?
Ouais, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. On n'a pas abordé, par exemple, lors du genre humoristique, par exemple, je pensais au point and click. C'est pas un genre que j'ai beaucoup fait, mais je sais que c'est des jeux vachement basés sur l'humour.
Le truc, c'est que dans ce podcast, en fait, on a essayé de pas partir dans des exemples où finalement, on n'exploite pas les spécificités du jeu vidéo.
Dans les Monkey Island, en général, c'est plutôt exploité.
Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans Monkey Island, c'est que l'humour, entre guillemets, passe par la compréhension totalement tordue de l'univers.
Voilà.
Mais il y a beaucoup de jeux aussi de point and click où ça a rien à voir. Enfin, si tu veux, l'humour est plus là dans l'écriture. Et là, pour le coup, bon, je veux dire, tout le monde sait de quoi on parle, tu vois. Enfin, c'est moins intéressant, je trouve.
Non, par exemple, par rapport à la sortie de Day of the Tentacle, je sais que au bout d'un moment, il y a une espèce de quête qui est totalement conne où il te demande de mettre un petit air dans un micro-ondes pour le décongeler dans le futur. Et il faut que tu lui envoies un pull du passé dans le futur, mais il faut que tu fasses tourner une machine à laver pendant plus de 1000 ans pour qu'il rétrécisse au lavage et qu'il, comme ça, quand le hamster sort du micro-ondes, parce qu'il avait été congelé, il n'est plus froid, tu vois. Juste, quand on m'a raconté cette quête-là, j'ai trouvé ça vraiment con, quoi. C'était Gotos lors d'un GK Live qui parlait de ça. Sans solution, je me demande comment tu peux faire, tu vois. Et, il faut être dans la tête des développeurs.
Bon, allez. On ferme pour cette semaine, mon cher ETH.
Ok, c'est fini.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.